mesdames de Hongrie, dans un château de Naples.
Il est des villes plus fortes que les siècles. Le temps ne les change pas. Les dominations s'y succèdent. Les civilisations s'y déposent comme des alluvions, mais elles conservent à travers les âges leur caractère, leur parfum propre, leur rythme et leur rumeur qui les distinguent de toutes les autres cités de la terre. Naples de toujours fut de ces villes-là. Telle elle avait été, telle elle restait et resterait au long des âges, à demi-africaine et demi-latine, avec ses ruelles serrées, son grouillement criard, son odeur d'huile, de safran et de poisson frit, sa poussière couleur de soleil, son bruit de grelots au cou des mules. Les Grecs l'avaient organisée, les Romains l'avaient conquise, les barbares l'avaient ravagée, les Byzantins et les Normands tour à tour s'y étaient installés. Naples avait absorbé, utilisé, fondu leurs arts, leurs lois et leur vocabulaire. L'imagination de la rue se nourrissait de leurs souvenirs, de leurs rites et de leurs mythes. Le peuple n'était ni grec, ni romain, ni byzantin, il était le peuple napolitain de toujours. Peuple pareil à nul autre au monde, qui use de la gaieté comme d'un masque de mime pour dissimuler la tragédie de la misère, qui emploie l'emphase pour donner du piment à la monotonie des jours, et dont l'apparente paresse n'est dictée que par la sagesse de ne point feindre l'activité lorsqu'on n'a rien à faire. Un peuple qui toujours aima la vie et la parole, toujours dû ruser avec le destin, et toujours montra grand mépris de l'agitation militaire, parce que la paix, qui ne lui fut que rarement dispensée, jamais ne l'ennuya. En ce temps-là, depuis un demi-siècle environ, Naples était passée de la domination des Hohenstaufen à celle des princes d'Anjou. L'établissement de ces derniers, appelé par le Saint-Siège, s'était accompli au milieu des meurtres, des répressions et des massacres qui ensanglantaient alors la péninsule. Les apports les plus certains de la nouvelle monarchie se voyaient d'une part aux industries de laine qu'elle avait fondées dans les faubourgs pour en tirer revenu, d'autre part à l'énorme résidence, mi-forteresse et mi-palais, qu'elle s'était fait construire près de la mer par l'architecte français Pierre de Chaulnes, le Château-Neuf. Gigantesque donjon rose érigé vers le ciel et que les Napolitains, cédant à leur humour autant qu'à leur attachement au vieux culte phallique, avaient immédiatement surnommé le Macho Angioino, le mâle angevin. Un matin de janvier 1315, dans une pièce haute de ce château, Roberto Oderisi, jeune peintre napolitain élève de Giotto, contemplait le portrait qu'il venait d'achever et qui constituait le centre d'un tableau à trois volets. Immobile devant son chevalet, un pinceau entre les dents, il ne parvenait pas à s'arracher à l'examen du tableau où l'huile encore fraîche avait des reflets mouillés. Il se demandait si une touche de jaune plus pâle ou au contraire de jaune légèrement plus orangé n'aurait pas mieux rendu l'éclat doré des cheveux, si le front était assez clair, si l'œil, ce bel œil bleu un peu rond, avait bien l'expression de la vie. Les traits étaient exactement reproduits, oh certes oui, les traits. Mais le regard, à quoi tient le regard? À un point de blanc sur la prunelle? À une ombre un peu plus profonde au coin de la paupière? Comment arriver jamais, avec des couleurs broyées et disposées les unes auprès des autres, à restituer la réalité d'un visage, ou les étranges variations de la lumière sur le contour des formes? Peut-être n'était-ce pas l'œil après tout qui se trouvait en cause, mais la transparence de la narine ou bien le clair éclat des lèvres. Je peins trop de vierges, avec toujours la même inclinaison de visage et toujours la même expression d'extase et d'absence, pensa le peintre. « Alors, signor Oderisi, est-ce fini ?» demanda la belle princesse qui lui servait de modèle. Depuis une semaine, elle passait 3 heures chaque jour assise dans cette pièce, posant pour un portrait demandé par la cour de France. À travers la grande ogive au vitrage ouvert, on apercevait les mâtures des bateaux d'Orient, amarrés dans le port, et au-delà le développement de la baie de Naples, la mer immensément bleue sous le poudroiement du soleil, le profil triangulaire du Vésuve. L'air était doux et le jour heureux à vivre. Oderisi ôta son pinceau de sa bouche. « Hélas, oui, répondit-il. C'est fini. Pourquoi, hélas ? Parce que je vais être privé de la félicité de voir chaque matin Donna Clemenza, et qu'il me semblera désormais que le soleil ne se lève plus. » C'était là petit compliment, car déclarer à une femme qu'elle soit princesse ou servante d'auberge, qu'on va tomber gravement malade de ne pas la revoir, ne constitue pour un Napolitain que le minimum obligé de la courtoisie. Et la dame de parage qui brodait, silencieuse dans un coin de la pièce, avec charge de veiller sur la décence de l'entretien, n'y trouva pas motif à seulement lever la tête. « Et puis, madame, et puis, je dis hélas, parce que ce portrait n'est point bon, » ajouta Oderizzi. « Il ne donne pas de vous une image de beauté aussi parfaite que la vérité. » On l'eût approuvé qu'il se fût vexé. Mais, se critiquant, il était sincère. Il éprouvait le chagrin de l'artiste devant l'œuvre achevée à l'avoir pu mieux faire. Ce jeune homme de 17 ans présentait déjà les caractères du grand peintre. « Puis-je voir ?» demanda Clémence de Hongrie. « Ah, madame, ne m'accablez point. Je sais trop que c'est à mon maître qu'aurait dû revenir l'honneur d'accomplir ce portrait. »